Genèse. Et cette semaine, on arrive au chapitre 16, et c'est à la page 11 dans les Bibles manchées. Je vais juste prier avant de lire le passage. Merci, notre bon Père Céleste, pour cette parole que nous avons chantée. C'est ta vérité. Convenue ce matin dans ta vérité. Toute la parole, toutes les écritures qui sont de toi, inspirées du Saint-Esprit, qui nous conduisent à Christ. Christ, on te connaît comme le bon Père que tu es. Le bon Père Céleste, sois notre enseignant ce matin, que ton Esprit nous enseigne, qu'il applique cette parole à nos cœurs, qu'il nous conduise sur les chemins de la vérité, de la droiture, de la confiance en toi. Et nous te demandons ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Donc, Genèse chapitre 16, verset 1. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Et des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari, Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit, « Je m'enfuis loin de Sarai, ta maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, « Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te vois ça enceinte, tu mettras au monde un fils qui te donnera à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Elle donna à l'Éternel, lui qui avait parlé, le nom d'Ota El-Roi, car elle dit, « Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Achaï Roi. Il se trouva entre Kadès et Barel. Agar donna un fils à Abraham, et celui-ci appela Ismaël, le fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Donc voici notre texte biblique ce matin. Alors, la plupart des animaux savent marcher dès leur naissance. Je trouve ça quelque chose de fascinant, de remarquable. Un petit poulain commence à marcher très rapidement. C'est inné. Et c'est pas le cas, mais c'est pas le cas des êtres humains. Notre deuxième fils va en ce moment de meuble en meuble. Il a 10 mois. Il n'a pas encore pris vraiment ses premiers pas de manière indépendante en tout cas. Mais je sais que ça viendra. Mais en apprenant, il tombe, il va tomber. Il va devoir se relever aussi, et c'est tout un apprentissage. Et marcher par la foi, marcher avec confiance en Dieu, en la fiabilité de Dieu, en la fidélité de Dieu, en la bienveillance de Dieu, n'est pas simple. Ça prend du temps. En fait, ça prend toute une vie. Il y a des hauts, il y a des bas. En chute, on doit se relever. Marcher par la vue, par contre, semble quasiment inné, instinctif. marcher en faisant confiance à ce qu'on voit, à l'humain, à nous-mêmes, ben ça c'est notre instinct. C'était le cas pour Abraham et son épouse Sarai. C'est pareil pour nous tous, je pense, sans exception. Et c'est ce qu'on va voir de nouveau dans ce passage ce matin. Alors la semaine dernière, dans le passage d'avant, Abraham en quelque sorte était sur un sommet, un peu sur la crête des montagnes, parce que, on a lu, il a eu confiance en l'Éternel. Et cela lui fut compté comme justice. Un moment extraordinaire, un moment important, même dans la Bible. Et Dieu a scellé une alliance avec lui, comme pour appuyer ses promesses, comme pour fortifier sa foi. Mais ce matin, dans ce passage, on est plutôt sur la descente. Abraham et Sarai tombent le nez par terre, dans la boue. La semaine prochaine, dans le passage suivant, on verra comment Dieu les relève. Ils compatissent et ils bon. C'est ainsi le voyage de la foi, le chemin de la foi. On va commencer ce message avec un constat erroné, mais c'est quelque chose, une pensée qui nous effleure l'esprit trop souvent parfois. Voici ce constat. Est-ce que Dieu a parfois besoin d'un peu d'aide? Ensuite, on va passer à une case dure, la suivante. Les conséquences amères de nos mauvais choix. On va terminer quand même en nous rappelant notre Dieu est bon et compatissant. Est-ce que vous avez parfois l'impression que Dieu a besoin d'un peu d'aide pour accomplir ses desseins? Jésus est remonté auprès de son Père, ça fait déjà 2000 ans. Oui, l'Évangile est quand même allé aux quatre coins du monde, mais il y a toujours du chemin à faire. Et même dans chaque génération, ce travail est à refaire. Chez nous en France, le travail peut sembler lent et certainement à contre-courant. Quand est-ce que Dieu va terminer, accomplir ses desseins? Ça peut sembler lent. Et peut-être sur le plan personnel, ça peut être le cas aussi. Pourquoi est-ce que telle ou telle situation dans ma vie ne change pas? Pourtant, je prie pour ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand est-ce que Dieu va accomplir ses desseins? Et le verset 1, ou la première partie, ou les premiers versets de ce passage, semble exprimer cette frustration-là. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Et au verset 3, on apprend que ça fait déjà 10 ans qu'Abraham et Sarai sont dans le pays de Canaan. 10 ans, c'est long. Pourtant, Dieu leur avait promis une descendance. Et une descendance est critique si Dieu va les bénir, si Dieu va réellement faire d'Abraham une grande nation, comme il a promis. Une descendance est critique si Dieu va accomplir ses promesses de bénir toutes les familles de la terre par Abraham, par la descendance d'Abraham. Mais 10 années se sont écoulées. Point d'enfant. Les tests de grossesse se sont révélés négatifs tous les mois, au grand don des deux. Et ça a dû être particulièrement dur pour Sarai. Sa peine, sa frustration, sa douleur, tout ça a dû être vraiment vif, une plaie ouverte. Je pense qu'on sent ça dans ce passage. Au verset 2, elle dit « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. » Il y a toute la souffrance terrible dans cette phrase-là. Elle sait que Dieu, l'Éternel, a donné de grandes promesses à son mari, des promesses qui impliquent une descendance, qui impliquent avoir des enfants. Elle sait que ça, c'est le dessein de Dieu, c'est Dieu qui l'a dit, c'est son plan. Elle n'en doute pas. Et en même temps, elle sait que l'Éternel, c'est lui. C'est ce qu'elle dit. Elle sait que l'Éternel l'empêche d'avoir des enfants. Lui qui est souverain. Pourtant, c'est elle, la femme d'Abraham. Et ce texte, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, le texte dit à plusieurs reprises, Sarai, la femme d'Abraham. On savait ça. On sait déjà ça. On n'a pas besoin que de réapprendre ça. Mais le texte de Martha, c'est elle et sa femme. Humainement parlant, on est face à un problème en quelque sorte. Tu as promis ces choses, on connaît, elle connaissait le dessein de Dieu. Et pourtant, elle voit que le Seigneur lui-même l'empêche d'avoir des enfants. Que faire? Au chapitre 12, c'était Abraham qui, par manque de foi, a suggéré à Sarai de dire aux Égyptiens qu'elle était sa sœur plutôt que son épouse. Ici, c'est Sarai qui suggère un plan, qui propose un plan qui manque de foi. Le plan, c'est Agar, sa servante, une Égyptienne en plus. Le plan, c'est d'avoir des enfants par sa servante. Aujourd'hui, on parlerait peut-être d'une mère porteuse. En tout cas, c'était une pratique bien connue à l'époque, bien connue des sociétés païennes du proche Moyen-Orient. La servante était considérée comme la propriété personnelle de sa maîtresse. Et en cas de souci, si la maîtresse ne pouvait pas avoir d'enfant, bah, c'est une pratique courante de donner la servante. Et c'est ce que Sarah dit ici. Voici que l'Éternel m'a rendu stérile et des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham écouta Sarah. Et puis au verset 3, alors Sarah, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante. Elle la donna pour femme à son mari Abraham. Et le vocabulaire de l'auteur, Moïse, n'est pas anodin, n'est pas aléatoire, parce qu'il emploie ici les mêmes mots qu'il a déjà employés au chapitre 3 de la Genèse, quand Ève a parlé à son mari Adam. Elle a pris le fruit. Elle prit la servante. Elle la donna. Donc, ici à Abraham. Et tout comme avec Adam, il y a une passivité coupable. Abraham acquiesce, il suit, il consentit, il dit pas non. Pourtant, le texte crie haut et fort, c'est Sarai qui est sa femme, c'est elle la femme d'Abraham. Agar, c'est juste la servante. Le texte le répète, le texte le martèle. Ce plan ne peut pas être l'intention de Dieu. Il a déjà défini le mariage au deuxième chapitre de la Genèse. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que Abraham et Sarai font? C'est pas l'intention de Dieu. C'est pas son plan. Oui, ils veulent que les desseins, les plans de Dieu s'accomplissent. Ils veulent quelque chose de bien. Mais Dieu a accompli ses desseins d'une manière qui est conforme à sa volonté, à sa personne, à sa sainteté, à sa loi. Et ça, c'est une leçon fondamentale pour nous tous, pour chaque croyant, n'importe quel, de n'importe quelle époque. La fin ne justifie pas les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. Oui, ça faisait 10 ans. Ça a dû être dur. Oui, la douleur de Sarai a dû être immense. Elle voulait qu'Abraham ait cette descendance. Mais non, la fin ne justifie pas les moyens. Dieu accomplit ses desseins à sa manière. Et non pas à notre manière toute humaine. Et ça vaut pour nous aussi, à notre époque. Il y a une sagesse pour nous bien des années plus tard. À titre d'exemple, j'aurais pu prendre d'autres exemples. Peut-être vous êtes célibataire et le temps passe. Peut-être ce collègue au travail qui s'intéresse à vous pourrait un jour devenir croyant, il ne l'est pas en ce moment. Ah, vous vous dites, peut-être il le deviendra si seulement je passe plus de temps avec lui. Mais c'est la pente glissante. Le Seigneur, s'il a un époux, une épouse pour vous, peut qu'il soit, qu'elle soit un croyant, une croyante. C'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 7. Si ça dépend de nous, dans certaines cultures, il n'y a pas cette liberté. Dans la nôtre, il y a cette liberté. Si ça dépend de nous, qu'il soit, qu'elle soit dans le Seigneur. Parce que Dieu accomplit ses desseins de sa manière. Et non pas de notre manière toute humaine. Ou un autre exemple. En tant qu'Église, notre désir, c'est de voir autant de personnes que possible venir au Seigneur. On veut que l'Église grandisse. On veut que le royaume de Dieu aille de l'avant. De bonnes choses, n'est-ce pas? De bons désirs. Mais par quels moyens? Comment est-ce qu'on va attirer une foule? Est-ce qu'on va changer notre manière de faire la musique? Est-ce qu'on va avoir des choses plus impressionnantes? Est-ce qu'il faut que les choses soient plus décontractées ou que le message soit différent? Je ne sais pas. Il peut y avoir des changements, mais il nous faut de la sagesse. Et cette conviction profonde que Dieu accomplit ses desseins de sa manière et de manière générale par sa parole, les Écritures annoncées, prêchées, partagées, et ça au moyen de l'Esprit. Et souvent, il fait ça petit à petit. C'est pas forcément très impressionnant, pas de manière humaine en tout cas. Dieu accomplit ses desseins de sa manière et non pas de notre manière toute humaine. Alors, au premier abord, le plan de Sarai et Abraham semble rencontrer une belle réussite. C'est ce qu'on voit au verset 4. Il eut des relations avec Agar. Celle-ci tomba enceinte. Enfin, le problème du verset 1 est résolu, n'est-ce pas? La stérilité, le manque d'enfants, le manque de descendance, tout ça, c'est résolu. Mais ce sentiment de réussite ne dure pas. C'est ce qu'on voit dans la deuxième moitié du verset 4. Et on est là à la deuxième section pour ce matin, les conséquences amères de nos mauvais choix. Suffit de lire la suite du verset 4. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et ce mot mépris est répété au verset 5. Parce que quelque chose s'est cassé. L'ordre des choses s'est inversé. Et du coup, Sarah se trouve humiliée. Humiliée par sa servante, qui, elle, a réussi, entre guillemets, humainement parlant, là où Sarai n'a pas pu. Douleur sur douleur. Pire peut-être, quelque chose s'est cassé entre Sarai et Abraham. Écoutez le début du verset 5. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. » Elle en veut à Abraham. Pourtant, comme elle dit elle-même, c'était son plan. Mais c'est un plan qu'Abraham n'aurait jamais dû suivre. Elle parle d'injure ou de violence parce que c'est dur. La faute est quand même largement partagée. Abraham est loin d'être innocent. Et Sarai dit à la fin du verset 5, « Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Et ça montre qu'il y a une tristesse dans ce passage. Leur mariage est comme impacté, peut-être c'est quelque chose qui a même impacté leur mariage jusqu'à la fin de leur jour, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose s'est cassé, parce que le mariage est fait pour deux et non pas pour trois. Dans un entretien télévisé assez célèbre, mais très triste, il y a bien des années, la princesse Diana a dit... Alors nous étions trois dans ce mariage, donc il y avait trop de monde. On sentait ça, sa tristesse. Les conséquences de ce plan si humain sont amères. Sarai perd sa servante. Sarai et Abraham détruisent quelque chose dans le mariage. Agar perd son chez-soi, sa protection, sa maîtresse, elle est maltraitée. Abraham est sur le point de perdre à la fois sa concubine et son seul et unique fils. Et ça parce qu'il enchaîne lâcheté sur lâcheté. C'est ce qu'on voit au verset 6. Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Abraham se lave les mains. En quelque sorte, il refoule le problème sur sa raie. Il ne prend pas ses responsabilités. Il ne mène pas. Il ne cherche pas à diriger la famille vers le haut, vers Dieu, de manière fidèle. Il ne prend pas soin de sa famille. C'est un peu comme Adam. Il y a là aussi un avertissement pour nous qui sont mariés, qui sont des époux. Mais de manière globale, il y a aussi une sagesse biblique pour nous tous. C'est un peu le principe en récolte ce qu'on sème. On voit ça partout dans la Bible, Ancien Testament comme Nouveau Testament. Parce que c'est ainsi que Dieu a créé ce monde. Il y a une cause à effet. Puis on va voir que Dieu est compatissant, Dieu est bon. Dieu est le Dieu de la restauration aussi. Il est patient avec nous. Mais il n'empêche que de manière générale, comme une règle de sagesse, il y a bien des exceptions, mais comme une règle de sagesse, nous récoltons ce que nous semons. Qu'est-ce que nous sommes en train de semer en ce moment? C'est une question que nous pouvons nous poser. Est-ce que nous investissons dans le royaume de Dieu ou dans notre propre petit royaume? Dans nos carrières, est-ce que nous cherchons tous azimuts à monter au sommet, à nous prouver, être quelqu'un? Ça dépend de notre vie d'église, ou de notre témoignage auprès de nos collègues. Ou tout simplement, au dépend de notre vie de famille, des engagements qu'on a pris envers nos époux, nos enfants. Nous récoltons ce que nous semons. Pour un jeune sur le point de se lancer dans les études ou dans un premier emploi. Tout comme quelqu'un qui est peut-être à mi-carrière. Ça vaut la peine de se poser cette question. Qu'est-ce que je suis en train de semer dans ma manière de faire? Peut-être pour vous, ce n'est pas une question de travail, ce n'est pas la carrière qui vous tente. C'est pas ça ce qui va donner une récolte amère. Mais il y a peut-être autre chose. Autre chose que vous êtes en train de faire. Vous savez peut-être déjà à peu près ce que c'est. À nous tous de chercher le discernement. Le discernement de Dieu, des Écritures, pour tous les domaines de la vie. Nos mariages, nos vies de famille, notre travail, notre vie d'église, notre engagement dans la société, dans la vie associative, dans notre vie de sainteté personnelle. Notre vie de loisir, est-ce que dans nos choix, les choix que nous faisons, qu'est-ce que nous allons récolter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que ça va donner? Fort heureusement, notre Dieu est bon et compatissant. C'est notre dernière partie pour ce matin, mais la deuxième partie de notre passage, c'est à peu près à partir du verset 7. Dieu est bon et compatissant. Alors ça ne sera pas simple pour Agar, c'est ce qu'on va voir. En même temps, Dieu est bon et compatissant envers elle. Verset 7. L'ange de l'Éternel trouve Agar. Alors cet ange, il est un peu mystérieux. Certains y voient Dieu lui-même, l'Éternel lui-même. D'autres voient la deuxième personne de la Trinité. Fils éternel, avant l'incarnation. D'autres encore voient simplement un représentant de l'Éternel. À la fin de notre passage, au verset 13, Agar dit que c'est l'Éternel qui lui a parlé. En tout cas, cet ange trouve Agar dans sa détresse. Il va à sa rencontre. Chose assez rare, il appelle par son nom. Agar, servante de Sarai. Tout comme pour Adam et Ève, qui se cachaient dans la honte après la chute, après avoir péché, cet ange de l'Éternel lui pose une question. Une question, en fait, il devait connaître la réponse à cette question, mais c'est dans sa grâce, dans la grâce de Dieu, selon la grâce de Dieu, qu'il pose cette question. Parce que Dieu s'intéresse à cette femme maltraitée. Il a compassion d'elle. Et même si le message qu'il a pour Agar n'est pas simple à accepter, peut-être surtout pour nous au XXIe siècle, il y a une grâce dedans. Verset 9, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Oui, ça ne sera pas facile. Ce n'est pas un choix de facilité. Mais il y aura une bénédiction. Verset 10 et 11. Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel a entendu dans ton malheur. On pourrait penser à ce stade que les bénédictions, les promesses que Dieu avait données à Abraham vont s'accomplir au travers de son fils, le fils d'Agar. Et ensuite, le petit descriptif de la vie de son fils, Ismaël, nous montre que ça ne sera pas le cas. Sa vie sera marquée par l'indépendance, mais aussi le conflit. On est loin là de quelqu'un qui, par qui Dieu va bénir toutes les familles de la terre. Mais en même temps, il y a une bénédiction, une restauration, quelque sorte, pour elle. Dieu l'a bénie. Elle dit de Dieu que c'est celui qui l'a vue, qui a pris soin d'elle. C'est ce qu'elle dit au verset 13. Oui, il y a des conséquences pour nos mauvais choix, des conséquences pour nous-mêmes, parfois aussi pour d'autres personnes, de manière tragique, comme pour Agar ici. On récolte ce qu'on sème, et en même temps, Dieu demeure bon. On en parlait cette semaine dans un groupe de maison, à Sartrouville, ce jeudi soir. On parlait de situations qui, à vue humaine, semblaient si désespérées, si tristes, avec des dégâts pour d'autres personnes. Et comment Dieu, dans sa bonté, après bien des années, ce n'était pas tout de suite, comment il avait quand même fait une œuvre de restauration. Dans le livre de l'Ecclésiaste, on lit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais c'est en son temps, pas en notre temps. Et comme on voit dans ce passage, il le fait à sa manière, selon ses voies, et non pas selon nos voies. On va en avoir un aperçu dans le texte la semaine prochaine. Notre texte ici parle d'un fils qui sera donné à Agar. Dans le texte la semaine prochaine, un autre sera donné à Sarai. Et bien sûr, tout ça nous conduit dans le temps de Dieu à un autre fils qui sera donné à Marie, la mère de notre Seigneur. En lui, par lui, le fils de Marie, Dieu fait tout ce qu'il fait. En lui, il y a une restauration qui dépasse notre entendement, une bénédiction à recevoir par la foi. En et par Christ, Dieu fait de nous ses enfants. Et ça, malgré notre manque de foi, malgré toutes les fois que nous baissons nos yeux et que nous suivons nos plans humains, plutôt que de nous attendre à lui, à patienter, à croire à ses promesses, à nous attendre à sa provision, à sa réponse à nos prières. Qu'est-ce que Dieu est patient envers nous, tout comme il a été patient et bon envers Sarai et Abraham. C'est pas simple de marcher par la foi. Marcher par la vue est beaucoup plus instinctif. Mais heureusement, Dieu persévère avec nous, comme il a persévéré avec Abraham et Sarai. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Notre Père nous apprend à marcher par la foi. Parfois, il nous apprend à marcher par la foi, par ses corrections, parfois aussi par la conséquence amère de nos choix. Il nous apprend à marcher par la foi, c'est-à-dire avoir des yeux fixés sur Jésus, son Fils, celui en qui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, celui en qui il va faire toutes choses belles en son temps, même si, peut-être en attendant, il y a des choses difficiles à vivre. Tournons-nous dès à présent vers ce Père dans la prière. On va lui remettre nos hauts et nos bas, nos chutes et aussi notre besoin de relèvement, sachant qu'il est patient, sachant qu'il est bon, sachant qu'il a promis de s'approcher de tous ceux qui s'approchent de lui. Prions. Notre bon Père Céleste, c'est facile de nous identifier à Sarah et à Abraham dans leur chute, dans leur manque de foi. Tu nous connais. Tu sais que notre marche, par la foi, notre marche chrétienne de tous les jours n'est pas toujours un chemin de victoire sur victoire. Il y a des hauts et des bas. Il y a ce manque de foi qui nous colle aussi à la peau. Merci donc, bon Père Céleste, de ce que tu es patient et bon envers nous. Merci parce que tu nous relèves. Merci parce que tu nous corriges. Et notre bon Père Céleste, nous voulons te demander de nous aider à te faire confiance, à te croire sur parole, à garder nos yeux fixés sur Jésus qui fait toutes choses belles en son temps. Donne-nous de la patience. Donne-nous de te croire. De croire que tu veux le mieux pour nous, le meilleur. Même dans les situations difficiles, même quand l'attente est longue. Notre bon Père Céleste, viens au secours de notre manque de confiance. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.
Amen.